Fermeture administrative d'un Akamal à Ducos pour 2 mois. Décision du Haut-Commissariat après des faits graves et répétés survenus ces derniers mois à proximité de l'établissement. C'est l'un des dispositifs pour lutter contre les violences familiales ou intrafamiliales. Coup de projecteur sur l'unité médico-judiciaire mise en place au CHT. L'hôtel Ouadrabé de Lifou pourrait ouvrir d'ici la fin de l'année, mais la SODIL précise que les ambitions ont été revues à la baisse. En métropole, nouvelle arrestation dans le cadre de l'enquête sur le vol des bijoux du Louvre. Il s'agit du dernier membre présumé du commando. Les bijoux restent pour l'instant introuvables. Un accord de paix russo-ukrainien est proche. C'est le président Donald Trump qui l'affirme après plusieurs jours de rencontres entre les négociateurs américains et ukrainiens. Et puis en football, victoire de l'OM 2-1 sur Newcastle en Ligue des Champions. Les Marseillais restent en course pour se qualifier pour les phases finales de la compétition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le Haut-Commissariat poursuit sa lutte pour mettre fin aux dérives constatées dans certains Akamal ou à proximité immédiate de ces établissements. Il a décidé d'une fermeture administrative de 2 mois du Akamal Le Bifort à Ducos pour des faits graves et répétés survenus ces derniers mois à proximité de l'établissement. C'est une décision qui intervient dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, nous a dit ce matin Anaïs Aït Mansour, la directrice de cabinet du Haut-Commissaire, était en effet notre invitée à 7h30.
Un des axes prioritaires, à la fois national et aussi du Haut-Commissaire localement, c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants. On n'est pas face à de la criminalité organisée dans les mêmes proportions qu'on peut avoir dans certains territoires nationaux. Néanmoins, on est présent et ça passe par la fermeture d'établissements où on observe du trafic de stupéfiants de façon régulière. Et c'était le cas de ce Akamal. Et on a d'autres procédures qui sont encore en cours. Mais voilà, les forces de l'ordre sont là pour veiller à lutter tous les jours contre le trafic de stupéfiants.
C'est des trafics qui se font au sein des Akamal ou aux alentours des Akamal?
Ça peut être les deux. Ce qu'on peut constater, ça peut être les deux. Après, là, je laisse la main au procureur parce que les enquêtes sont en cours, donc je ne ferai pas de commentaires. Mais nous, de façon administrative, on ferme des établissements dès lors qu'on constate qu'il y a une activité illicite de trafic qui est également liée à l'activité commerciale de ces établissements.
Anaïs Aït Mansour est également revenue sur le durcissement de la vente et de la détention de certaines armes blanches, une mesure métropolitaine applicable en Nouvelle-Calédonie qui restreint notamment la vente de certaines armes blanches aux mineurs. Cela permet de soutenir l'action des forces de l'ordre en Calédonie qui ont exercé une vigilance accrue depuis le début de l'année aux abords de tous les établissements scolaires.
On a été très présents cette année. En effet, on a mis en place un système de coordination avec le vice-rectorat, les provinces, l'enseignement public et privé, afin de mettre en œuvre des contrôles aux abords des établissements, parfois sous réquisition aussi du procureur, pour me permettre d'ouvrir des sacs. Et depuis février, depuis la rentrée de 2025, on effectue 2 à 3 contrôles par semaine aux abords des établissements, tant en zone police qu'en zone gendarmerie, et toujours en lien étroit avec le vice-rectorat et les chefs d'établissement eux-mêmes qui savent nous dire éventuellement les jours où il peut y avoir des tensions aux abords de tel et tel établissement. Donc on a fait quand même beaucoup de contrôles. Sur l'ensemble de ces contrôles, on a retrouvé très peu d'armes blanches. Hein, je tiens à le dire, c'est de l'ordre de 5 ou 6 sur toute la Nouvelle-Calédonie. Et puis bon, c'était plutôt des couteaux utilitaire, couteau de pêche, un opinel pour son casse-croûte. Voilà, mais on n'a pas trouvé d'armes du type arme de défense.
Mais pour autant, il faut rester vigilant sur les bagarres qui peuvent se déclencher à la sortie des établissements scolaires, a précisé Anaïs Aït Mansour.
Des rixes, on en a eu quelques-unes un peu sensationnelles parce qu'il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux. Je tiens à dire que les forces ont agi avec discernement et efficacité en lien avec les chefs d'établissement pour les accompagner sur des procédures disciplinaires et pour surtout mettre fin aux faits graves. On observe moins de rixes. Par contre, ce qu'on observe, c'est encore et toujours des atteintes aux biens aux abords des établissements scolaires, des cambriolages, des dégradations, des destructions. Et là, c'est un travail partenarial avec tout l'écosystème de l'établissement scolaire, mais aussi autour de l'établissement scolaire. Je vais vous donner un exemple. À Porte de Fer, il y a des exactions aux abords des établissements scolaires. Et vraiment, il y a un travail étroit qui se fait avec des réunions toutes les semaines entre le chef d'établissement, la directrice de la police, la ville de Nouméa, la province et y compris les bailleurs sociaux. Parce qu'il y a un voisinage avec des jeunes individus qui sèment de troubles autour de l'établissement scolaire. Donc voilà, on pense globalité, on pense vraiment sécurisation de tout l'environnement scolaire.
Anaïs Aït Mansour, la directrice de cabinet du Haut-Commissaire, qui était donc notre invitée ce matin. Une interview que vous pouvez retrouver comme chaque jour sur notre site internet. Revenons en bref sur la découverte de 3 pains de cocaïne par des pêcheurs de marée. Un cas similaire, vous vous en souvenez, avait été constaté il y a quelques mois sur l'île des Pins et les personnes qui avaient trouvé la drogue avaient mis en place un trafic avec la Grande Terre. Cette fois-ci, pas de trafic. Les habitants ont en effet décidé de ramener les stupéfiants à la gendarmerie de Tadine. Les autorités ont demandé une analyse du contenu des ballots de drogue conditionnés en pain de 250 à 300 grammes.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Trouvez-vous inquiétant que régulièrement des paquets de cocaïne soient retrouvés sur le littoral calédonien ? Si cela vous inquiète, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut encore renforcer en Nouvelle-Calédonie les dispositifs de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Ils sont 14% à penser que ce n'est pas nécessaire. Justement, l'un de ces dispositifs, c'est la création d'une unité médico-judiciaire installée au CHT Lionel Sabot. Elle a été ouverte il y a un an.
Oui, l'unité médico-judiciaire de proximité est installée au Médipôle de Coutiot. Elle est située entre les deux services d'urgence du CHT, les urgences pédiatriques et les urgences adultes. C'est une unité un peu particulière, a ouvert ses portes le 9 septembre 2024. Elle prend en charge deux types de patients avec un versant athanatologique. Pour faire simple, ce sont les autopsies de personnes décédées, mais surtout la prise en charge des personnes placées en garde à vue et des victimes au sens général du terme. Une unité qui, depuis son ouverture, a connu une forte activité, comme en témoigne le docteur Céline Paret, médecin légiste et responsable de l'UMJP de Nouvelle-Calédonie.
On a fait un peu plus de 4200 actes chez les vivants, un peu plus de 200 actes sur le versant thanatologique. Sur les 4000, un peu plus de 4200, on a 64% de victimes. Sur toutes ces victimes, on a 26% de violences conjugales, 9% de maltraitance et 11% de victimes de violences sexuelles. Dans les violences conjugales, on a 88% de femmes et pratiquement 2% de mineurs, ce qui n'est pas anodin dans la violence conjugale. Et autre chiffre qui est interpellant, donc sur les violences sexuelles, 90% de femmes, ça c'est ce qui est connu, mais on a 67% de mineurs sur nos victimes de violences sexuelles. Donc on a plus de la moitié des victimes que l'on accueille qui sont mineures pour les violences sexuelles.
Cette unité médico-judiciaire de proximité fonctionne, comme cela a été rappelé, notamment en début de semaine par le procureur de la République Yves Dupas, comme une sorte de guichet unique pour une meilleure prise en charge des victimes de violences intrafamiliales, de violences conjugales et bien évidemment de violences sexuelles. On retrouve le docteur Céline Paris.
Elle va être accueillie par notre secrétaire, donc il va faire tout le versant administratif, l'identité, si elle a déjà vu un médecin, s'il y a des documents médicaux. Puis elle va être reçue par notre infirmière qui fait une pré-consultation et ensuite elle est reçue par le médecin où il y a l'examen. Ensuite, on a l'association ADAVI qui est présente dans les locaux 5 demi-journées par semaine, donc on redirige la victime. Et on a en plus à l'hôpital le DAV, le dispositif d'accueil des victimes, où on redirige aussi des victimes. Donc on a tout ce panel à notre disposition. Et on a aussi la salle d'audition Mélanie, donc qui est une salle d'audition filmée pour les mineurs. Et on arrive surtout pour les victimes venant du Nord, où les victimes ne vont pas faire 3-4 allers-retours, où on arrive à tout faire en une matinée.
Le docteur Céline Paray, calédonienne, elle a longuement travaillé en métropole, mais a fait le choix de revenir sur le territoire pour exercer, un vrai choix personnel qui lui permet de pouvoir faire évidemment des comparaisons entre la métropole et le territoire et d'être à la tête d'une petite équipe qui est confrontée au quotidien à des faits de violence par procuration.
J'ai été dans des départements où il y a plusieurs millions d'habitants, donc les gens sont un peu noyés dans la masse. Et ici, finalement, c'est interpellant de le dire, mais on a des habitués, si vous voulez, des familles qu'on connaît, donc il y a une proximité. C'est bien parce que voilà, on arrive à avoir cette proximité, mais en même temps, on ne doit pas avoir de proximité, puisqu'on fait des rapports pour la justice. Il y a un côté positif, si vous voulez, mais il faut qu'on fasse attention de ne pas verser, justement, on connaît trop les gens, puis c'est le principe de la Calédonie. On est une bonne équipe, on est une petite équipe, donc j'espère que ça va perdurer. Ce qui est important pour tenir, si vous voulez, imaginez qu'on ne reçoit que de la violence. Alors, personne n'est violent directement avec nous, heureusement, mais on n'a que des dires de violence toute la journée. Et donc, il faut une équipe qui soit très soudée pour pouvoir supporter cette violence quotidienne. Pour le moment, on a une bonne ambiance.
Et j'ajoute que le financement de l'investissement pour la création de l'UMJP a été partagé par l'État à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du contrat de développement État-Nouvelle-Calédonie 2024-2027. Le financement du fonctionnement de l'unité est porté par le ministère de la Justice qui assure la prise en charge du fonctionnement courant de cette unité.
Une dernière information justice, le proviseur du lycée de Pointe-Boute relaxé. Il était poursuivi pour atteinte sexuelle sur une élève de 17 ans. Cette dernière s'était confiée à des camarades avant de déclarer avoir eu des rapports sexuels consentis avec le proviseur. Le directeur, qui a toujours nié les faits, avait été suspendu de ses fonctions. Le tribunal a donc décidé de le relaxer après une audience de 4 heures hier, considérant que les faits n'étaient pas constitués. La DAFE, la direction du service de l'État de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, va informer de cette décision de justice le ministère de l'Agriculture, qui est le ministère de tutelle pour le lycée Michel Rocard de Pointe-Bout. C'est lui qui décidera si le proviseur peut ou non reprendre ses fonctions. Il est 11h41, la première pause de ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
À la suite de l'actualité en Calédonie et à Lifou, une ouverture de l'hôtel Ouadrabé est prévue en fin d'année. C'est ce qu'a annoncé la SODIL hier lors de l'Assemblée de la province des îles, qui s'est donc tenue hier après-midi, Léana Colombo.
Après de multiples rebondissements, l'hôtel ouvrira bel et bien ses portes le 22 décembre prochain. Seulement, l'ouverture se fera en mode dégradé, c'est-à-dire que seulement quelques chambres seront disponibles. Dans ce cas précis, environ 30 sur 50, mais le nombre sera réadapté selon la demande. Il y a des tarifs plus bas que prévu initialement. L'hôtel construit avec des normes 5 étoiles, proposera un service 4 étoiles. Reste à savoir si Intercontinental sera de la partie. Selon le directeur de la SODIL, Jacques Dralu, des négociations sont toujours en cours, mais le groupe international voudrait mettre un terme à ce partenariat. Le projet de l'hôtel Ouadjabé aura coûté 4,5 milliards de francs à la province des îles. Au travers de la SODIL et de Gigadex, la société exploitante qui est placée en redressement judiciaire depuis fin juin. Les réservations en ligne pour le Ouadjabé devrait débuter d'ici quelques jours lorsque le site internet sera opérationnel. Des premières réservations ont déjà été effectuées lors de la Foire du Pacifique à Nouméa, c'était début octobre.
Nous sommes en pleine semaine de l'engagement citoyen, une semaine qui se décline aujourd'hui au lycée Escoffier avec des ateliers immersifs qui sont proposés aux élèves de plusieurs classes de défense, Léo Fichou.
Oui, depuis 8h, 42 élèves des classes de défense des lycées Escoffier et d'Ikukewe sont répartis en 3 équipes et sont encadrés par des personnels du Centre de Service National et de la Jeunesse en Nouvelle-Calédonie, mais aussi de l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants. Une journée dite de défense et de mémoire pour les lycéens. Le lieutenant-colonel José Franco, directeur du CSNJNC, est présent pour encadrer les différents ateliers. Écoutez.
On leur a préparé une journée bien dense, là, très intéressante. On a commencé par une cérémonie des couleurs, le chant de la Marseillaise. Ensuite, on a préparé 6 ateliers. Par exemple, l'atelier tir sportif à la carabine laser, c'est un atelier pour lequel on leur enseigne le self-control, la maîtrise. Et puis, bon, tous les ateliers sont sur le même principe, hein, pédagogie, on leur fait passer des messages, on leur demande de sortir un petit peu de leur zone de confort, d'être confrontés à des situations différentes, au contact de 2 militaires, un gendarme et un militaire de la Marine nationale. Vous voyez, donc c'est vraiment dans toute la diversité qu'on est présent aujourd'hui.
3 ateliers proposés ce matin, du tir sportif laser, un atelier stratégique et un autre raconte-moi une cérémonie. 3 autres seront proposés cet après-midi, réalité virtuelle, résilience et un forum des métiers. Les lycéens apprécient la diversité des ateliers.
Le début de la journée, c'était bien tout ça. La première activité, on a regardé un peu les missions de la marine, de l'armée de terre, tout ça. Et là, on a fait comment ça se déroule une cérémonie. Bah, c'est intéressant. Tu découvres plein de choses.
En vrai, j'aime bien. Je trouve que ça nous fait un peu découvrir plein de choses. Parce qu'on connaît pas exemple tirer ou par exemple lever des drapeaux, etc. On connaissait pas et maintenant on apprend plusieurs trucs.
Ça se passe bien pour l'instant. Là, on a fait un jeu de rôle juste avant de venir. Là, on a appris comment défiler.
C'est dans l'organisation du SNU et tout. On a fait ce matin une assemblée, une sorte d'assemblée. Et là, on fait un test de tir de façon au laser. C'est une bonne journée. Enfin, c'est une bonne matinée, on va dire ça. On espère que ça continue comme ça.
Une journée qui se clôturera autour de 16h par une cérémonie d'au revoir et une remise des bleuets.
En bref, le diocèse de Nouméa a accueilli la semaine dernière la 31e commission de l'enseignement catholique des diocèses francophones du Pacifique. Était notamment présent du 17 au 21 novembre l'archevêque de Papeete et président de la commission, Mgr Cotenceau, mais aussi l'évêque de Port-Vila, Mgr Barème, la directrice diocésaine de l'enseignement catholique du Vanuatu, encore la directrice des ressources humaines représentant le directeur diocésain de Polynésie française. La délégation a rencontré notamment les représentants du Sénat coutumier, le haut-commissaire Jacques Billan. Elle a aussi visité plusieurs établissements de la DEC en Calédonie. Les membres de la commission ont tenu à exprimer, je cite, leur soutien, leur confiance et leurs encouragements aux acteurs de l'enseignement catholique qui chaque jour contribuent à la mission éducative de l'Église. Fin de citation.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Au cœur de Noël, c'est l'opération du cœur de Radio Rythme Bleu pour ces fêtes de fin d'année. Vous la connaissez, Radio Rythme Bleu, depuis le début de son existence il y a 40 ans, mène des opérations de solidarité pour ces fêtes de Noël. Et depuis 12 ans, c'est donc au cœur de Noël, une opération qui est bâtie d'abord sur votre générosité, puisque nous vous demandons d'apporter à la radio des cadeaux, des jouets qui seront redistribués aux enfants des familles en difficulté, mais qui est aussi possible grâce aux partenaires qui sont engagés avec nous depuis le début de cette opération. Merci pour votre fidélité. Des représentants de ces associations sont sur ce plateau. Elisabeth Gaulle, la présidente de la Société Saint-Vincent de Paul, Marie-Françoise Méhoun, la présidente du Secours catholique, Dominique Bayol de la Croix-Rouge et Adrien Guérin qui est vice-président de la Table ronde française. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et merci de votre participation à ce petit rendez-vous sur Radio Rythme Bleu et votre fidélité puisque je le disais, ça fait 12 ans que vous travaillez aussi à cette opération. Elisabeth Gaulle, vous avez vécu déjà plusieurs opérations au cœur de Noël et vous avez assisté à des distributions de cadeaux. C'est vraiment des choses qui vous ont touché.
Oui, beaucoup, bien sûr, parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup d'enfants démunis. Alors nous, tous les ans, on fait un goûter. On fait un goûter pour nos bénéficiaires, nos enfants, sur un de nos sites. Et puis, on visite aussi une tribu ou un endroit éloigné où on gâte aussi les enfants grâce à IRB, entre autres. Merci.
Grâce aux auditeurs de RRB.
Grâce aux auditeurs, mais ça passe par vous aussi.
Oui.
Et j'ai pu remarquer que les Calédoniens étaient vraiment très généreux, généralement.
Marie-Françoise Méhoun, c'est votre première année de présidente du Secours catholique, donc vous découvrez en quelque sorte cette opération, mais vous en aviez entendu parler, je pense.
Oui, bien sûr. Effectivement, c'est la première année où je participe en tant que présidente. C'était un moment important, comme Saint-Vincent de Paul. Nous organisons également sur un de nos sites, pareil, des goûters pour Noël, parce que bon... Mais avant de commencer, je voulais d'abord remercier RRB, remercier l'ensemble des Calédoniens qui seront là à l'écoute et qui nous aideront dans ce moment de partage. Et aussi, je n'oublie pas non plus la table ronde qui va s'occuper de la partie logistique, et Dieu sait que c'est important. On est à un moment où on sollicite énormément nos équipes, nos bénévoles. Pour nous, accompagner des familles qui sont dans le besoin, c'est important, d'autant plus que nous, nos familles, ce sont des familles qui sont suivies par les services sociaux, soit de la mairie, mais également des associations comme Poédi, par exemple, où les assistantes sociales nous sollicitent. Et donc, ça nous permet effectivement d'allumer cette lumière de Noël, des moments d'espérance pour des familles qui sont dans la précarité et que je pense qu'à un moment difficile pour la Nouvelle-Calédonie, c'est important. Qu'on ait ce message d'espoir, en tout cas, qu'on donne.
Dominique Bayol, à la Croix-Rouge aussi, vous constatez année après année que parfois un petit cadeau peut changer le Noël d'une famille ?
Oui, en fait, nous, on travaille aussi particulièrement avec tous les services sociaux, donc les CCAS, services sociaux du FSH, la délégation au logement. Donc, en fait, on pointe les besoins et on répond à chaque besoin des enfants pour que chaque enfant ait au moins un cadeau en fin d'année.
Voilà, et ça marche depuis plusieurs années.
Voilà, et ça marche depuis plusieurs années, effectivement.
Alors, le petit dernier de cette opération, on va arrêter de les appeler les petits derniers parce qu'ils vont en avoir marre, c'est la table ronde française qui a rejoint effectivement l'organisation de cette opération au cœur de Noël, Adrien Guérin, depuis plusieurs années. Alors, c'est un travail que, rappelez les autres partenaires, discret mais essentiel. Vous mettez finalement au service logistique de cette opération et vous mobilisez vous aussi vos équipes.
Hein. C'est ça. Donc en fait, on a 16 membres actifs et 2 membres anciens. Et du coup, pendant cette période-là, on se met à disposition pour pouvoir gérer la logistique des cadeaux qu'on amène après aux différents services. D'ailleurs, on remercie tous les services de faire ces dons-là aux gens qui en ont besoin pendant cette période. Et ça permet justement, nous, de participer à tout ça. Et on est vraiment enjoué de pouvoir le faire. Comme chaque année, ça fait déjà quelques années qu'on le fait, ça doit faire 4-5
ans. 4 ans, c'est ça. C'est la quatrième année.
Et on est ravis de le faire, en tout cas.
Voilà, et c'est aussi une grosse organisation. Alors, on le dit, on le répète, ce qui fera plaisir, évidemment, aux enfants et aux familles en difficulté, c'est des cadeaux pour les enfants de tous âges. On le dit aussi très, très clairement, l'idée, c'est que vous puissiez, lorsque vous allez faire des courses, acheter un cadeau neuf. C'est un vrai cadeau que nous vous proposons de faire à ces familles en difficulté. Des jouets, des jeux de plein air, Elisabeth Go, il en faut vraiment pour tous les goûts et toutes les familles.
Hein. Alors, il en faut pour tous les goûts, de petits jusqu'à 14 ans, à peu près, 16 ans même. Hein, donc,
les 18, allons jusqu'à 18.
18, c'est déjà grand.
Allons jusqu'à la majorité.
Voilà. En tous les cas,
un ballon peut servir même après.
Voilà. Hein. En tous les cas, on aime bien les jeux de plein air pour sortir un petit peu les enfants aussi de leurs écrans, etc. Donc on aime bien les jeux de plein air, les jeux de société, les poupées, bien sûr, les camions, un tas de jouets qui va permettre aux enfants d'avoir un beau regard. Ils sont assez émerveillés quand on leur donne des cadeaux. Donc, c'est vraiment une grosse récompense pour nous de voir ces enfants heureux.
Alors, les uns et les autres, vous collectez régulièrement dans l'année des dons que vous font les Calédoniens. Mais côté cadeau, il y a peut-être quelque chose à faire de supplémentaire, Marie-Françoise Méhoun ?
Oui, bien sûr, on est toujours à la...
Cadeau pour les enfants, je parle.
Cadeau pour les enfants, mais bon, ça peut aussi y être un vêtement. Hein, donc, ça peut être autre chose que juste des jouets. C'est vrai que les jouets de plage aussi, ce sont des choses qui sont très sollicitées en ce moment et pour cause avec l'été. Mais si on a des vêtements d'adolescents, nous, ça nous intéresse bien parce qu'on en a moins. Et puis, pour les hommes aussi. Alors, ça veut dire que les femmes, on achète trop parce que il y a énormément de vêtements pour femmes, etc. Mais en tout cas, si on peut avoir des vêtements pour les adolescents, etc., nous, ça nous intéresse bien.
Alors, la priorité, c'est évidemment les cadeaux pour les enfants, vous l'avez rappelé, mais aussi à la Croix-Rouge, les vêtements, ça peut être... Alors, parfois, on ne considère pas que c'est un cadeau pour Noël, mais en fait, pour des familles qui en ont besoin, c'en est un vrai.
Oui, uniquement les vêtements pour hommes et garçons, que ça soit des baskets, des shorts, des t-shirts, c'est les deux publics où on n'arrive pas à répondre aux besoins. Et puis, pour les ados, on peut aussi penser aux BD, aux manga, et ils aiment bien ça aussi, donc ça peut être aussi une source de cadeaux.
Voilà, le choix est vaste. Oui, et on rappelle que vous avez jusqu'au 20 décembre pour amener tous ces cadeaux à la radio qui seront donc distribués aux associations partenaires qui les distribueront aux familles et aux familles qui suivent. La table ronde française, Adrien Guérin, qui nous a rejoint donc il y a 4 ans, mais qui mène un certain nombre d'opérations caritatives aussi tout au long de l'année.
Hein. C'est ça.
C'est peut-être pas le club de service le plus connu, mais il fait beaucoup de choses.
C'est vrai, tout à fait. Ben là, on vient de finir l'édition des Voiles du Caillou il y a quelques semaines. On a amené du coup 13 enfants qui étaient donc des enfants qui sont des fois en rémission de cancer. Cette année, c'était voilà, des enfants qui avaient donc d'un service du coup de l'hôpital. On les a sortis, on a fait donc un week-end catamaran avec eux. On a passé un bon moment. On s'est vraiment bien amusé avec eux. On a hâte de pouvoir là justement recommuniquer dessus très prochainement. Et voilà, les Voiles du Caillou sont régulièrement faits. On fait aussi des opérations après tout au long de l'année. En fonction aussi de ce que décide le président et des envies du président. On est assez actifs cette année, donc non, c'est très intéressant. Là, on va voir pour l'année prochaine, parce que nous, le bureau se refait à partir du mois d'avril. Donc,
il y a un âge limite pour être à la table ronde française.
Effectivement, il y a un âge limite.
Mais ce qui est bien, c'est que les présidents qui se succèdent ont toujours inscrit cette opération au cœur de Noël dans le calendrier des événements de la table ronde.
Donc, exactement.
C'est très bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. On vous remercie de votre fidélité et de votre engagement. Vous aviez un petit mot à rajouter, Elisabeth Bourgeois.
Oui, moi j'aimerais bien rajouter petit mot. Je fais un appel à bénévolat, que ce soit pour mon association, mais pour les deux autres aussi qui sont en face de moi. Là. On a vraiment besoin de bénévoles, de gens qui viennent nous aider. On est vraiment tous, hein, on est tous en manque de bénévoles.
De votre engagement dans cette opération est d'autant plus remarquable parce qu'il faut vraiment mobiliser toutes les équipes. Merci à toutes les quatre et puis on remercie aussi évidemment d'ores et déjà les auditeurs. On sait qu'ils vont répondre à notre sollicitation. Ils l'ont déjà fait depuis le début de la semaine. Il y a déjà de nombreux cadeaux qui sont arrivés, mais les besoins sont tels que vous pouvez continuer à venir nous voir. Merci à tous les quatre et on donnera évidemment régulièrement des nouvelles de cette opération sur l'antenne de RRB. On va marquer une pause dans ce journal et on se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Comme chaque année, la ville de Nouméa invite tous les Nouméens à vérifier leur inscription sur les listes électorales et à mettre à jour l'adresse de leur domicile avant le 31 décembre 2025. Dans un premier temps, vérifiez votre inscription sur le site internet www.électeur-nc.fr. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou que vous êtes nouveau résident de la commune, faites les démarches d'inscription auprès du service des élections à l'hôtel de ville. Pour rappel, les jeunes majeurs sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Si vous avez changé de quartier au sein de la commune, signalez ce changement au service des élections à l'hôtel de ville de Nouméa. Votre adresse de domicile détermine le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Retrouvez toutes les informations pratiques et la marche à suivre dès maintenant sur le site www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15. Ces démarches sont nécessaires pour participer aux scrutins organisés en 2026. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025, mais n'attendez pas le dernier moment. Ceci est un message de la ville de Nouméa.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
On a beaucoup parlé de l'autorisation de sortie accordée à un narcotrafiquant de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil pour qu'il puisse se rendre à un entretien d'embauche. On a appris cette nuit que la mère de ce prisonnier avait été placée en garde à vue à la suite d'une opération menée à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. La famille de ce détenu n'a visiblement pas mis fin à son trafic. William Molinier pour Europe 1.
L'opération anti-stup à la Courneuve a été fructueuse. Devant l'appartement, le chien policier marque l'arrêt. À l'intérieur, les forces de l'ordre découvrent 400 grammes de cannabis et une importante somme d'argent, 10 000 euros, dont une partie cachée dans les sous-vêtements d'une dame d'un certain âge. Les policiers ne font pas immédiatement le rapprochement, mais il se trouve que la résidente de ce logement n'est autre que la mère de Waïd Ben Faïza, incarcérée à Vendin-le-Vieil et autorisée le même jour à se rendre à un entretien d'embauche. La famille Ben Faïza est archi connue en Seine-Saint-Denis, cette fratrie de 10 enfants dont 7 garçons a tenu pendant 2 décennies les points de deal du département. Le clan n'a semble-t-il pas renoncé au narcotrafic. Avant d'entrer en prison, le réseau Ben Faïza pouvait générer jusqu'à 10 000 euros cash par jour, de quoi mettre la famille à l'abri pour une bonne décennie. Outre la mère, aujourd'hui septuagénaire, 2 de ses neveux ont été placés en garde à vue. L'enquête, elle, se poursuit. Si la quantité de drogue saisie est somme toute modeste, c'est pour un enquêteur de Seine-Saint-Denis la preuve que les Ben Faïza, dit-il, ont toujours le nez dans la bassine.
Deux nouvelles interpellations dans l'affaire du vol des bijoux du Louvre. Plus d'un mois après ce cambriolage spectaculaire, le dernier membre présumé du commando a été interpellé sur un chantier à Laval. Il a été placé en garde à vue avec 3 autres personnes, 2 femmes de 31 et 40 ans et un homme de 38 ans. Au total, 8 personnes ont déjà été interpellées grâce au travail mené par les enquêteurs. Écoutez Axel Ronde, porte-parole du syndicat police CFTC.
Le travail de la police technique et scientifique qui a été déterminant dans cette affaire avec énormément de relevés, de traces et indices. Les perquisitions, les différents regroupements dans la téléphonie mobile, il a été retrouvé beaucoup d'éléments et qui ont été analysés par le laboratoire central de la préfecture de police.
Les auditions vont se poursuivre, notamment pour tenter de retrouver les bijoux dérobés qui restent à l'heure actuelle introuvables. En bref, les sénateurs poursuivent l'examen du budget de la sécurité sociale. Ils ont retiré du texte la suspension de la réforme des retraites, mais elle devrait être réintroduite par les députés au terme de la navette parlementaire. Jordan Bardella a donné vainqueur de la prochaine présidentielle dans tous les cas de figure, selon un sondage Odoxa. Le président du Rassemblement national devancerait tous ses adversaires au deuxième tour, que ce soit Édouard Philippe, avec lequel l'écart serait le plus faible, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann ou Jean-Luc Mélenchon, avec lequel l'écart serait le plus important. L'actualité à l'étranger avec un accord de paix russo-ukrainien qui est proche, c'est le président Donald Trump qui l'affirme après plusieurs jours de rencontres entre les négociateurs américains et ukrainiens. La première version du plan de paix américain a été amendée. Laura Legault pour Europe 1.
Les Ukrainiens sont prêts à aller de l'avant avec le plan américain, selon les mots de Volodymyr Zelensky face à ses alliés. La dernière version de l'accord modifié à Genève serait plus avantageuse aux yeux de Kiev. Elle permettrait entre autres à l'Ukraine de conserver une armée de 800 000 hommes contre 600 000 dans sa première mouture. Mais Volodymyr Zelensky prévient, certains points sensibles comme les questions territoriales doivent encore être discutés. Pas de quoi faire reculer Donald Trump pour qui un accord entre l'Ukraine et la Russie est proche. Emmanuel Macron, lui, tempère l'optimisme américain. La Russie ne va pas dans le sens d'un accord juste selon lui.
Plusieurs participants à notre réunion ont aussi rendu compte de leurs échanges directs avec les Russes, en particulier avec le président Poutine. Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu.
Aujourd'hui, Moscou dit attendre la nouvelle version du plan. L'émissaire américain Steve Witkoff doit y être envoyé prochainement pour discuter avec Vladimir Poutine des derniers points de désaccord.
En attendant, la nuit dernière, la Russie a visé Kiev avec des drones et des missiles. Un bombardement qui a fait 7 victimes. Midi 1, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive.
Chez Maison Thirier, la magie des fêtes commence dans votre assiette. Vivez des fêtes sensationnelles avec l'incroyable collection de fin d'année. Entrées raffinées, plats gourmands et bûches glacées, tout pour transformer vos moments en famille en instants magiques. Retrouvez-nous dans nos 4 magasins, Ansvata, Faubourg Blanchot, Magenta et Apogoty. Maison Thirier, la magie des fêtes à portée de main. Seul le bon crée du bonheur.
Dans un cadre idyllique à Lanzvata, le restaurant Le Fun vous invite à une expérience unique et conviviale. Découvrez le concept Steak Stone, viandes et poissons à cuire sur pierre chaude. Envie de fraîcheur? Craquez pour nos salades, suggestions de la semaine ou place à la carte. Le Fun, votre Steak Stone face à la mer, ouvert 7 jours sur 7. Info sur notre page Facebook Le Fun, réservation 28 67 08.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Info Mag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Le football, et on va parler de l'OM, l'Olympique de Marseille, à l'occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions, Michael Juneski.
Oui, la victoire de l'Olympique de Marseille sur Newcastle aujourd'hui. Les Marseillais, d'abord maladroits en première période, étaient menés par les Anglais avant de renverser le match durant la deuxième mi-temps avec un grand Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, des réalisations à la 46e puis à la 50e minute de jeu. Une seule victoire lors des 3 dernières journées pourrait suffire à l'OM pour décrocher une place en play-off, la phase finale de la Champions League. Parmi les autres résultats du jour, on signalera cette victoire de Chelsea sur le FC Barcelone 3-0, ou encore le Bayer Leverkusen qui a dompté Manchester City 2-0. Dès demain, le Paris Saint-Germain sera engagé face à Tottenham, un remake de la finale de la Supercoupe d'Europe qui avait été remportée par le PSG. Paris devrait aligner ses meilleures armes, Barcola, Vitinha, Zaïre Emery et Dembélé, le ballon d'or qui devrait faire son retour à cette occasion 3 semaines après sa blessure. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 7h. Autre club français sur le pont, l'AS Monaco qui sera en déplacement chez les Chypriotes de Paphos. Paul Pogba, qui a fait son retour à la compétition ce week-end en Ligue 1, devrait de nouveau jouer la Champions League après 2 ans éloigné des terrains. Il faut dire que les Monégasques sont en situation compliquée dans cette phase de groupe. Un bilan d'une victoire, 2 nuls et 1 défaite en 4 rencontres. Parmi les autres affiches au programme, l'Atlético de Madrid qui fera face à l'Inter Milan. Le Real Madrid de Kylian Mbappé sur le terrain de l'Olympiakos. Les Reds de Liverpool recevront le PSV Eindhoven. Et un beau choc en vue aussi entre Arsenal et le Bayern Munich. Toutes ces rencontres débuteront donc demain matin à 7h, heure de Nouméa.
Le sport côté calédonien est fin de saison pour la kitesurfeuse Phoebe Rocher. Très belle saison internationale pour la calédonienne qui était engagée pour la première fois en senior freestyle.
Oui, une première saison sur le circuit mondial de kitesurf freestyle où elle est parvenue à terminer à la 7e place. Elle a notamment conservé son titre de championne de France avant de découvrir le haut niveau international avec les étapes de la Coupe du Monde à Abu Dhabi puis au Brésil. Pour sa première participation à la catégorie reine, à tout juste 18 ans, elle a réussi une magnifique performance. Elle nous a fait part de sa réaction.
Donc cette année, je suis passée en senior, donc finalement dans la cour des grands. Ma saison de compétition a commencé à Le Cat pour les championnats de France où j'ai pu garder mon titre de championne de France Open. Je suis super contente de ma hit. J'ai vraiment pu montrer ce que je savais faire. J'ai posé toutes mes figures. 2 jours après, je suis allée à Abu Dhabi pour participer à ma première compétition sur le circuit mondial face au plus grand nom du freestyle. J'ai pu rencontrer les filles qui m'inspirent au quotidien. Et donc après 7 jours d'attente pour le vent, on est finalement allé à l'eau. On a dû passer en élimination simple. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je me classe première ou deuxième de ma manche pour aller direct en finale. Des conditions très très légères. C'est mon maniement de l'aile qui m'a pénalisée parce que j'avais pas l'habitude. J'ai fini 7e de cette première étape. Après, je me suis dirigée vers le Brésil, une destination où je rêve d'aller depuis plusieurs années. On avait vraiment des conditions trop trop bien. Ma première manche s'est très bien passée. J'ai pu poser tout ce que je voulais. Et ma deuxième manche aussi, j'ai posé mes figures. Il y a une figure qui m'a donné un peu de fil à retordre. J'ai dû la réessayer 3 fois quand même. Ça s'est joué au dernier trick. J'aurais pu passer en demi-finale, mais j'ai craché mon dernier trick. J'ai beaucoup appris pendant cette compétition. Je me classe quand même 7e mondiale. Je suis très contente pour cette première année d'être dans le top 8.
Voilà pour la réaction de Phoebe Rocher. Un autre Calédonien, Arthur Hilbert, avait aussi décroché le titre de champion de France avant de participer aux dernières étapes du circuit mondial. Il s'est hissé jusqu'en demi-finale au Brésil pour finir 5e mondial.
Et puis c'est aussi aujourd'hui la suite de la Casino Paddle Cup, une compétition dont nous vous avons déjà parlé. C'est aussi l'occasion, notamment pour les néo-pratiquants de ce sport, de faire des échanges avec des joueuses et des joueurs de haut niveau.
Ouais, plusieurs créneaux horaires libérés les matins pour faire profiter les pratiquants locaux de l'expérience des invités nationaux et internationaux. Ceux qui ont essayé ont apprécié.
Ah bah c'est sympa, ça nous apprend des gestes qu'on connaît pas forcément, toutes les petites erreurs qu'on peut faire, ça nous corrige direct, bonne ambiance.
On se rend compte que de jouer de son côté, on prend plein de mauvais gestes, et là en fait tout de suite les pros nous les font remarquer, c'est très difficile de les corriger, donc c'était vraiment très chouette de mettre le doigt dessus.
Je joue un petit peu au tennis, donc un peu les mauvais gestes en fait pour le jeu du padel. Et là, le gros avantage, c'est qu'avec un regard de pro, il voit tout de suite en fait les problèmes de placement, les problèmes de prise de raquette, etc. Alors même des choses qu'on arrive à voir quand on regarde des matchs, mais quand on se voit pas soi-même, donc c'est très intéressant d'avoir ce retour. Super.
Les joueuses et les joueurs pro apprécient aussi la possibilité de donner des conseils utiles aux amateurs calédoniens, comme Quentin Uzo, le 19e joueur français.
Chaque pro venu pour l'occasion permet de pratiquer, taper la balle, de découvrir un peu mieux ce sport avec des gens qui ont un peu plus l'habitude de donner des cours en Europe, quoi. Distiller des bons conseils, essayer de donner un petit peu plus d'envergure au jeu, un peu plus de volume au jeu des Calédoniens et voir un petit peu quelles sont toutes les possibilités, quelle est un peu la physionomie et la philosophie de ce sport. Tout ça dans la bonne ambiance et tous ensemble, quoi. Ici, il y a dans l'ensemble un très bon niveau de jeu. Je trouve que les gens se sont bien accoutumés au sport. Après, comme partout dans le monde, dès que ce sport est nouveau, on y est tous passés d'ailleurs. On a des habitudes tennis qui reviennent avec du jeu très rapide. On laisse pas trop passer la balle après pour la jouer avec les vitres. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour apprendre à ralentir le jeu. Ce qui va leur permettre de passer un cap, c'est de pouvoir ralentir le jeu, toujours jouer le coup de plus. C'est un sport où 8 points sur 10 se terminent par une faute. Donc il faut éviter d'en faire moins que l'adversaire.
Et côté compétition, les matchs de la Casino Padel Cup, c'est tous les soirs à partir de 17h30 au Tennis Club du Montcoffin.
Merci Mickaël, il est midi et 8 minutes, la fin de ce journal. Infomag se poursuit comme chaque jour avec Thierry jusqu'à 13h, qui sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Bel après-midi à tous.
L'info, c'est aussi sur rrb.nc.